c'est parti pour le grand direct des médias sur Europe 1 avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le grand direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1. On décrypte pour vous tout ce qui se passe sur vos écrans. À la une ce matin, coup de projecteur sur les rapports entre Emmanuel Macron et les médias. En ce 14 juillet, le président de la République rompt avec la tradition de ses prédécesseurs. Il n'accordera pas d'interview télévisée. L'occasion de se pencher sur sa communication depuis son arrivée à l'Elysée avec notre spécialiste média Caroline Bonacossa. À 9h30, le journal des médias avec Paul-Henri Alain, avec à la une ce matin.
Thierry Ardisson dévoile les visages des chroniqueurs de sa nouvelle émission. Mimi Mati, bientôt comédienne pour France 3. Et TF1 envisage des coupures pub dans ses JT.
Notre invité du jour, Stéphane Bern, à l'occasion du concert de Paris qu'il animera ce soir en direct sur France 2. On fera le point avec lui sur ses projets avec la chaîne du service public la saison prochaine. Nous passerons également un coup de fil à Bruce Toussaint. Il sera à la tête de C'est dans l'air ce soir et toute la semaine prochaine sur France 5. On en profitera pour parler de sa rentrée télé. Sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping, le télérépondeur. Et bien sûr, faites la terre avec aujourd'hui Christine Bérou. Le grand direct des médias, c'est jusqu'à 10h et ça commence maintenant. 9h08 sur Europe 1, l'heure de découvrir le top 3 des audiences d'hier soir avec peu de monde devant la télé. Vous allez l'entendre, TF1 est en tête avec le film Sherlock Holmes avec Jude Law et Robert Downey Jr. Le film a séduit 2 600 000 téléspectateurs, soit 16% du public. Deuxième, France 2 avec un numéro inédit de Secret d'Histoire présenté par Stéphane Bern qui sera avec nous dans quelques instants. 2 200 000 Français étaient au rendez-vous, 13% de part d'audience pour France 2. Enfin troisième, France 3 avec un James Bond, meurt un autre jour avec Pierce Brosnan a conquis 1 900 000 téléspectateurs, 11% d'audience pour France 3. Allez, on passe aux chiffres de la TNT avec vous, Paul-Henri Alain. Est-ce qu'une chaîne dépasse le million de téléspectateurs hier soir ?
Aucune chaîne ne dépasse le million, mais France 5 réalise un beau score pour les deux épisodes de J'irai dormir chez vous, qui a réuni en moyenne 847 000 téléspectateurs. Et on vous en parlait hier, Confession intime sur NT1 avec Christian Quesada a attiré 573 000 téléspectateurs, soit 3,1% de part de marché.
On sent que c'est l'été, hein. La chaîne la plus haute est à 2 600 000, en dessous des 3 millions de téléspectateurs. Personne ne dépasse le million sur la TNT. Peu de monde devant la télé en ce moment. On passe aux chiffres des access prime time. On vous les a donnés et non, vous les donne.
Les access de TF1 et France 2 sont au coude à coude avec 2,1 millions de téléspectateurs. Et on note aussi le Tour de France qui est en pleine forme sur France 2. Vous étiez 3,8 millions, soit 43,8% de part d'audience à assister à l'incroyable victoire du Français Romain Bardet pour la 12e étape du Tour de France.
Le Tour de France qui fédère toujours sur France Télévisions. Merci Paul-Henri, à tout à l'heure pour le journal des médias. Ne bougez pas, dans un instant, on décrypte pour vous le rapport entre Emmanuel Macron et les médias. Pour ce 14 juillet, le président de la République a décidé de rompre avec la tradition de l'interview télévisée. On vous explique pourquoi dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le grand direct des médias. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton.
Et dans un instant, Stéphane Bern sera avec nous dans ce studio. Il nous parlera notamment de Code Promo, sa nouvelle émission d'humour à la rentrée sur France 2. On décryptera également pour vous le rapport entre Emmanuel Macron et les médias avec notre spécialiste Caroline Bonacossa. Mais pour l'heure, que s'est-il passé à la télévision ces dernières 24 heures? La réponse tout de suite avec notre zapping. Et on commence ce zapping avec un record des plus improbables. C'est celui du plus gros pistolet à eau du monde, bien sûr. C'était dans le 1945 d'M6 hier soir.
Marc Robert est ingénieur à la NASA et pour se rafraîchir, il a décidé de construire le plus grand pistolet à eau du monde. L'engin, il mesure plus de 2 mètres, pratique pour une bataille, mais ce jouet n'est pas à mettre entre toutes les mains. 8 fois plus puissant qu'une lance de pompier, il peut être capable de propulser l'eau à plus de 400 km. Impressionnant.
Voilà un sujet d'investigation des plus pointus.
Ah bah écoutez, c'est l'été, qu'est-ce
le
que vous voulez.
Le plus gros pistolet à eau du monde, on
ça
sent que c'est l'été.
Ça change un
hein.
peu, bah oui, mais ça fait du bien ce genre d'infos, moi j'adore.
Allez, investigation toujours, vous allez adorer cette séquence Anissa si vous avez aimé la précédente. C'est un sujet du 20h de TF1 hier soir. Un journaliste nous parle de voyage et a décidé de se glisser dans la peau d'une valise.
Très bien.
Grand moment de télé.
Vous m'aviez oublié au fond du placard, mais je suis de retour. Premier week-end de départ et me voilà embarqué sur la route des vacances, un peu malgré moi. Ici en gare, j'encaisse les trottoirs. Mon propriétaire ne veut surtout pas rater son train. Autour de moi, mes congénères subissent le même sort. Décidément, nous en voyons de toutes les couleurs.
Je ne peux plus trop l'attirer avec.
Ma valise, c'est un peu comme ma chambre. Il y a tout. Enfin, je prends tout et je bourre et. Et moi, je m'agenouille dessus plutôt pour la fermer.
Heureusement pour nous, certains vacanciers sont un peu plus précautionneux.
Je la roule bien, je la porte, je la fais pas monter comme ça avec les roulettes. Ma valise, c'est ma copine de vacances.
Ah, voilà qui me fait plaisir.
En immersion dans la peau d'une valise.
Ah, c'est étonnant, hein. Écoutez, mais bon, c'est l'investigation, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est notre meilleur ami, la valise, on la sort quand tout va bien, en fait, pour partir en vacances.
En tout cas, s'ils veulent une nouvelle idée de reportage, ils peuvent se glisser en immersion dans les valises que j'ai sous les yeux ce matin, parce que je suis très fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi. Et voyez ça dans la peau de quel objet vous aimeriez vous glisser? Cette question.
Si, j'aimerais bien me glisser dans la peau de mon téléphone, parce qu'il se passe tellement de choses dans mon téléphone que
j'aimerais bien voir ça.
Je pense que la journée, ce serait très agité.
Allez, histoire à présent avec un extrait de l'excellente émission Secret d'Histoire sur France 2, consacrée à Michel-Ange hier soir. Un grand homme passionné par la peinture, la sculpture, mais visiblement un peu moins par l'hygiène.
Michel-Ange, qui a les moyens de vivre comme un prince, s'inflige pourtant un train de vie misérable.
Michel-Ange est un homme qui vit dans le moins de luxe possible.
Il vit dans une masure, dans une maison qui n'est pas un taudis, mais enfin qui reste une maison très modeste.
Michel-Ange n'a aucun souci d'élégance et donc il ne se lave pas. Il ne se nourrit pratiquement pas d'un verre de vin, d'un quignon de pain. Il dort sur une paillasse.
On racontera qu'il dort même avec ses bottes. Et quand il les enlève, des morceaux de peau sont collés, on va dire, à la chaussure.
Aïe, aïe, aïe. C'est toujours passionnant, ces anecdotes de Secret d'Histoire.
Heureusement que c'était un grand artiste. Michel-Ange. On retiendra ça de lui.
Et un très bon score pour Secret d'Histoire hier sur France 2. Allez, on poursuit ce zapping avec une séquence émotion à présent. Christian Quesada, le grand champion du jeu de TF1 Les 12 coups de midi, était hier soir sur NT1 dans un reportage qui lui était entièrement consacré. Les caméras de Confession Intime sont notamment revenues sur son incroyable success story.
Des plateaux de télé, j'en ai fait beaucoup. Depuis que j'ai quitté l'aventure des 12 coups de midi, j'ai l'impression d'être un autre Christian. Il y a quelques mois en arrière, c'était inimaginable. J'étais dans une situation financière vraiment difficile qui semblait quasi inextricable. Je le dis franchement, sur du moyen terme, je voyais pas trop comment j'allais m'en sortir. C'est un passage de l'ombre à la lumière, et même, je dirais, d'une lumière hyper médiatisée. C'est une sorte de maelstrom d'émotions comme ça. J'ai beaucoup de moments où je me dis, ah bah ouais, mais franchement, voilà, est-ce que je l'ai mérité? Bah, certainement oui. Ah ouais, mais bah, ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Certainement oui. Mais en tout cas, ça m'arrive à moi, et j'en profite à pleines dents, et j'ai vraiment envie d'y aller encore plus loin.
Voilà, Christian qui profite donc de la vie à pleines dents. Hein. Nouvelle
bien.
Expression.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est un conte de fées moderne.
On sent que ça a vraiment changé sa vie, hein, les 12 coups de midi, avec 800 000 euros de gains, dont 200 000 euros de cadeaux. Qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent, Anissa?
Je sais pas, moi j'y redistribue, moi, à tous mes amis.
Mais
voilà, si, non mais c'est vrai.
Bah,
je vais pas garder tout ça pour moi, toutes ces voitures, tout cet argent. Moi j'ai envie de m'amuser.
Vous êtes généreuse, vous n'avez que des qualités, Anissa, décidément.
Merci beaucoup. Oui.
Allez, on termine ce zapping sur BFM TV avec justement une association de riverains qui sont excédés par des délinquants dans leur quartier. Enfin, plutôt des délinquantes, puisqu'il s'agit de mouettes.
La colère des habitants d'un quartier d'Aix-en-Provence. Ils n'en peuvent plus, ils ont créé un collectif, Vos gueules les mouettes. Bon, ça parle tout seul, hein. Selon eux, il y a trop de mouettes, trop de nuisances. Ils demandent par exemple de stériliser les œufs. La mairie répond non. Alexis Pluyette, Lénie Pomerantz.
Des goélands et des mouettes par centaines ont élu domicile sur les toits de ces immeubles. Un cauchemar pour les habitants.
Les nuisances, c'est à 2h du matin. Ou alors quand elles partent le soir vers 7h, là on n'entend même pas la télévision. Après, c'est à 4h, 4h30 du matin, plus personne ne dort.
Et vu la chaleur qu'il fait, c'est vrai que bon, on est obligé de fermer les fenêtres, mais si on ferme les fenêtres, c'est un sauna à l'intérieur.
L'association s'appelle Vos gueules les mouettes. Vous voulez adhérer, Anissa?
Oui, j'adhère.
Ça marche.
Et je voudrais juste faire une parenthèse. Oui. Je reçois énormément de messages, comme de par hasard, depuis 3 minutes.
De mouettes?
Non, de gens qui me disent « on est amis, ne l'oublie pas ». Oui, alors je ne vais pas vous oublier, mais je n'ai pas gagné les gains de Christian Quesada. Donc on va juste revenir sur Terre. Je n'ai toujours rien à vous donner.
Malheureusement. Voilà pour notre zapping. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on vous dit tout sur le rapport entre Emmanuel Macron et les médias. Caroline Bonacossa.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas donné d'interview télévisée depuis son élection. Qu'est-ce que ce silence dit de ses relations avec les journalistes? On voit ça après la pub.
On sera également avec Stéphane Bern, l'animateur star de France 2, nous dira tout sans langue de bois sur sa rentrée. Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1. Le grand direct des médias revient dans un instant. Europe 1.
Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton.
Et place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, on s'intéresse au rapport entre Emmanuel Macron et les médias. Emmanuel Macron qui rompt avec la tradition de ses prédécesseurs puisqu'il n'accordera pas d'interview télévisée en ce 14 juillet. Pourquoi cette décision, Caroline ?
Officiellement, tout a été dit à Versailles le 3 juillet. Maintenant, c'est la stratégie du compte-gouttes, en fait, après le discours fleuve. La rareté crée la valeur en communication.
Mais est-ce que ce n'est pas déroger à une tradition républicaine ?
Mais une tradition créée par Valéry Giscard d'Estaing avec une régularité de balancier. Chaque président répond aux questions des journalistes en direct le 14 juillet et présente ses vœux le 31 décembre.
Alors Emmanuel Macron a tout de même accordé une interview au quotidien Ouest-France.
Oui, mais alors là, le cadre est différent quand on est en presse écrite. L'entretien est souvent mené sous le regard des communicants et ces mêmes communicants demandent souvent la relecture des propos avant publication, ne serait-ce que pour se rassurer.
C'est systématique cette relecture en presse écrite ?
En tous les cas, en matière de politique, la demande est quasiment systématique.
Et puis l'interview télévisée du 14 juillet, il faut bien le dire, donnait l'impression d'être très cadrée pour les prédécesseurs d'Emmanuel Macron.
Oui, mais peut-être très cadrée, mais malgré tout en direct. Et là, en direct, tout est possible. PPDA avait osé, par exemple, en 2007, une pique face à Nicolas Sarkozy, fraîchement élu. Il lui avait dit face caméra.
Vous aviez l'air excité comme un petit garçon qui rentre dans la cour des grands.
Imaginez la tête de Nicolas Sarkozy, il était furieux de cette comparaison avec un petit garçon et un an plus tard, allez savoir pourquoi, PPDA était débarqué de son fauteuil du 20h. Le journaliste a toujours fait le lien entre cette phrase du petit garçon et la fin de sa présentation aux 20h.
Alors pour revenir à Emmanuel Macron, son refus d'accorder une interview télévisée en ce 14 juillet peut-il compliquer ses rapports avec les journalistes, Caroline ?
En tous les cas, là, ça tombe comme un élément supplémentaire. La semaine dernière, l'Express a révélé déjà que le bureau où travaillent les journalistes qui sont accrédités à la présidence va bouger. Il était jusque-là dans l'enceinte de la cour de l'Élysée. Donc avec une vue absolument panoramique sur les va-et-vient et il va, comme par hasard, se retrouver dans un lieu plus excentré.
Est-ce qu'il y aurait une volonté de contrôle de la part d'Emmanuel Macron ?
C'est la crainte, en tous les cas, honnêtement, de la plupart des rédactions en France. Elles l'ont déjà dit, d'ailleurs, officiellement en mai dernier, si vous vous souvenez. C'était lors d'un déplacement présidentiel au Mali et l'Élysée avait appelé directement les journalistes que la présidence voulait inviter aux grandes dames des rédactions qui se sont érigées contre ce choix dicté par l'Élysée, disant que c'était aux rédactions de choisir qui ils envoyaient.
Caroline, est-ce qu'on peut dire que la communication présidentielle est en train de se verrouiller ?
La question se pose franchement. Quand vous voyez les images hier du couple Macron et Trump à l'intérieur des Invalides, qui ont été diffusées sur la page Facebook du président, c'était des images filmées exclusivement par un seul vidéaste choisi par l'Élysée.
Alors est-ce qu'il faut voir dans cette distance entre Emmanuel Macron et les journalistes le contre-pied de la précédente présidence ?
Mais certainement. Franchement, on avait su que François Hollande avait eu 60 rencontres avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde. Ils en avaient fait un livre, un président ne devrait pas dire ça, un livre qui a finalement ruiné, l'option d'un second mandat. Emmanuel Macron et ses équipes de com en ont tiré les conséquences. Leur idée, se tenir loin des journalistes, mais on a envie de rajouter pas trop quand même, parce que le compromis, c'est aussi une vertu en politique.
Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage. Dans un instant, Stéphane Bern va nous rejoindre. Avec lui, on évoquera tous ses projets, son mercato, sa nouvelle émission d'humour sur France 2 et ses nouvelles activités de producteur, sans oublier toutes les infos médias du jour dans le journal des médias de Paul-Henri Alain. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Europe 1, le grand direct des médias, revient dans un instant.
Bientôt 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Bonjour Paul-Henri.
Et à la une ce matin, Thierry Ardisson dévoile les visages des chroniqueurs de sa nouvelle émission. Mimi Mathy, bientôt comédienne pour France 3, et TF1 envisage des coupures pub dans ses JT.
Et on commence donc avec Thierry Ardisson qui publie une photo de la nouvelle équipe des Terriens du Dimanche.
Et c'est sur Twitter que Thierry Ardisson nous dévoile sa toute nouvelle équipe. Et parmi eux, il y a des noms qui revenaient depuis plusieurs jours. Natacha Polony, Franz-Olivier Gisberg, Absatoussi. Mais il y a aussi de nouveaux visages. Le blogueur Jérém Star, la femme politique Raquel Garrido, l'humoriste Haroun ou encore l'avocat Gilles-William Goldendel. C'est donc une équipe de 7 chroniqueurs qui entourera Thierry Ardisson à la rentrée. Et ils ne sont pas sur la photo, mais Laurent Baffy, l'humoriste Tanguy Pastureau et le journaliste Stéphane Etcheverry devrait être également de la partie. Les Terriens du Dimanche, ce sera à la rentrée sur C8.
Une équipe avec des personnalités de tous horizons, je pense notamment au blogueur Jérém Star, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Cette émission sera donc à découvrir à la rentrée sur C8. Mimi Mati, bientôt sur France 3.
L'ange gardien de TF1 tournera bientôt une fiction. Elle jouera le rôle d'une femme flic dans un téléfilm intitulé Les liens du sang. L'intrigue se déroulera dans le sud de la France. Au casting, on retrouvera le comédien Philippe Carrois, que l'on a récemment vu dans la série Camping Paradis ou encore Meurtre A. Les deux comédiens s'étaient déjà croisés plusieurs fois sur les plateaux de Joséphine Ange Gardien. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.
TF1 sur le point d'obtenir une coupure de pub dans ses JT.
C'est le journal Les Echos qui alerte sur cette nouvelle. Selon eux, TF1 tenterait de renégocier sa convention avec le CSA pour pouvoir intégrer de la publicité dans le JT de 13h et le 20h, une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Le CSA confirme l'information mais précise qu'aucune décision n'a été prise. De son côté, TF1 n'a pas souhaité commenter. Juridiquement, une chaîne a le droit de couper un JT s'il fait plus de 30 minutes. Il faut juste un feu vert du CSA. En coupant ses JT ainsi, TF1 pourrait gagner jusqu'à 50 millions d'euros.
Le numéro de Paris Match de cette semaine restera bien en kiosque.
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict. Europe 1 vous en parlait hier. Le parquet de Paris, soutenu par de nombreuses associations de défense des victimes, avait assigné le journal et demandé son retrait des kiosques. En cause, la présence de nombreuses photos jugées choquantes dans son dernier numéro. De son côté, le magazine défendait le droit à l'information. Dans son verdict, le tribunal souligne que les photographies témoignent d'une recherche évidente de sensationnel. Le tribunal précise également que Paris Match a interdiction de publier sur son site internet ses photos et ne pourra pas effectuer de nouveaux tirages du numéro.
LCI en édition spéciale pour rendre hommage aux victimes de Nice.
Toutes les chaînes seront aujourd'hui centrées sur le 14 juillet. LCI aussi sera en édition spéciale à Nice. Un an après le terrible attentat, Julien Arnaud sera sur place pour commenter les hommages aux victimes. Il sera à l'antenne jusqu'au concert hommage qui aura lieu ce soir. Il nous en dit plus.
Et moi, je serai sur le plateau, à l'endroit où se passent vraiment les cérémonies, au cœur de l'événement, pour recevoir tous les acteurs de cet événement, toutes les personnes qui ont vécu ce qui s'est passé il y a un an. Les familles de victimes, évidemment, en premier lieu, c'est d'abord elles qu'on a envie d'entendre, qu'elles nous disent un an après comment elles se sentent, comment elles ont vécu cet événement et aujourd'hui dans quel état d'esprit elles sont. Aussi pas mal de moments très émouvants, il y a notamment Calogero le soir qui va chanter sa chanson Les Feux d'Artifice, il y a des comédiens qui vont lire des textes et puis il y aura des choses très très visuelles, très très très, très émouvantes, très très fortes.
Le CSA pointe du doigt Éric Zemmour.
Et plus précisément la radio RTL. Le CSA a adressé une mise en demeure à la station pour éloge de la discrimination. En cause, une chronique du Polémiste datant du 2 février dernier, dans laquelle il disait que la non-discrimination était une machine à désintégrer la nation. Si le CSA constate une récidive, il pourrait prendre des décisions plus lourdes. La station de radio a de son côté fait savoir qu'elle allait déposer un recours. Affaire à suivre donc.
Et radio toujours, Europe 1 recrute une nouvelle voix.
Après Daphné Burki, Patrick Cohen, Philippe Vandel, Hélène Jouan ou encore Marion Lagardère, c'est Vincent Hervouette, chef du service étranger de LCI, qui fera sa rentrée sur Europe 1. Il devrait être en charge d'une chronique sur les questions internationales. Aucune décision n'est encore prise sur un départ ou non de LCI, où il officie depuis 20 ans.
Allez, on termine avec le chiffre du jour.
10 000 comme 10 000 disques vinyles que s'apprête à vendre Radio France. Ce sera la deuxième vente aux enchères du genre. Parmi les pièces rares, un 45 tours de l'actrice Jane Mansfield accompagné par un certain Jimi Hendrix. Dans sa discothèque, Radio France possède 1,6 million de disques, dont 450 000 vinyles.
Merci beaucoup Paul-Henri, restez bien avec nous. Stéphane Bern arrive dans ce studio dans quelques minutes. On sera également en ligne avec Bruce Toussaint pour parler de sa rentrée télé. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le grand direct des médias.
Europe 1.
Le grand direct des médias, Guillaume Janton.
Le grand direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on vous donne la parole sur tout ce qui se passe à la télé au 3921, standard d'Europe 1. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, c'est maintenant dans notre télérépondeur.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Non, j'appelle pour relève,
il y en a marre.
Ça devient très désagréable.
Oui, bonjour, je suis Marie-Vonne.
Bonjour.
Je vous appelle de Vannes. Je suis en train de regarder sur la 5 l'émission « J'irai dormir chez vous ». Ma fille est malentendante. Elle ne peut pas suivre l'émission parce que le sous-titrage n'a rien à voir avec l'émission. Donc, c'était la raison pour laquelle je vous appelais. Merci.
Bonjour Guillaume, bonjour belle Anissa.
Bonjour.
Jean-Claude de Montpellier. Je vous appelle parce que j'ai regardé cet après-midi France 3 puis France 2, que je voudrais vraiment beaucoup remercier parce que là on est quand même, enfin je suis au courant de tous les produits et de toutes les promotions, c'est fabuleux. Bon, de temps en temps il y a des coupures avec des gars qui sont à vélo, il paraît qu'ils font le Tour de France, mais enfin bon, c'est pas trop long et la pub revient très vite. Voilà, donc c'est, tout est parfait. Bonne émission à vous, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.
C'était le télérépondeur. Merci pour vos messages. Continuez de nous appeler au 3921 standard d'Europe 1.
Le grand direct des médias, Guillaume Janton.
Habitué des matinales à la radio comme à la télé, on le retrouve également sur France 5 où il présente C'est dans l'air pendant une partie de l'été. Et ce matin, c'est Toussaint sur Europe 1. Bonjour Bruce Toussaint.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous venez d'achever votre Merci. Première saison sur France 5 après votre départ d'iTélé l'année dernière. Quel bilan faites-vous de cette année, Bruce Toussaint ?
Oh, c'était passionnant. C'était génial. C'était vraiment une année... Enfin, C'est dans l'air, c'est vraiment une institution de la télévision, donc c'est vraiment d'avoir une grande fierté d'avoir pu reprendre cette émission. On était un petit peu inquiets, voilà, on se demandait comment les téléspectateurs allaient réagir au départ d'Yves Calvi, je suis très honnête avec vous évidemment, et puis avec Caroline Roux qui assurait l'émission du lundi au jeudi, et moi le vendredi et le samedi, ben finalement,
vous êtes
ça
rassuré.
S'est plutôt bien passé. Voilà.
Vous êtes présent sur France 5 une partie de l'été, donc à la présentation de C'est dans l'air, c'est important pour vous qu'une émission comme C'est dans l'air reste en direct pendant l'été ?
Oui, alors ça c'est vraiment, c'est pas moi qui l'ai décidé, pour le coup c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années maintenant. C'est comme un JT de 13h ou de 20h, c'est dans l'air. C'est une émission qui ne peut pas s'arrêter, qui doit être absolument présente toute l'année parce que c'est un repère pour les téléspectateurs. Donc ça demande un petit effort de la part des présentateurs d'être un peu présents l'été, même s'il y aura aussi Axel de Tarlé, Laurent Bazin qui présenteront l'émission pendant juillet et août. Mais oui, on doit absolument être là.
Vous serez donc en direct ce soir avec un programme spécial pour ce 14 juillet, j'imagine ?
Oui, évidemment, on va revenir sur toute l'actualité de cette journée qui est particulièrement riche, bien sûr, avec Donald Trump sur les Champs-Élysées, ensuite le président Macron qui ira à Nice. Donc on fera un large résumé de cette journée.
Vous avez été pressenti à la présentation de C'est à vous la saison prochaine. C'est une émission que vous auriez aimé animer, Bruce Toussaint ?
En fait, je crois que la question c'est pas vraiment posée, puisque à mon sens il y avait deux conditions que je ne pouvais pas remplir.
Être une
la
femme.
La première c'était voilà être une femme, et surtout il y avait une candidate légitime qui était Anne-Elisabeth qui depuis plusieurs années maintenant était le joker comme on dit d'Anne-Sophie Lapix, donc c'est tout à fait logique, normal, et je suis très heureux pour Anne-Elisabeth qui en plus est une amie, qu'elle assure à la rentrée la suite d'Anne-Sophie.
Anne-Sophie Lapix justement a été choisie pour présenter le 20h de France 2, c'est un exercice qui aurait pu vous intéresser, Bruce Toussaint ?
Oh, ça c'est une drôle, oui c'est une question légitime que je me pose de temps en temps, mais je sais pas, c'est un... J'ai tellement été habitué depuis de nombreuses années... Je l'ai même fait sur Europe 1 d'ailleurs, à animer des grandes émissions de bande, entre guillemets. La matinale, c'est une émission de bande. Thomas Soto l'a prouvé pendant toutes ces années. Et Patrick Cohen le fera encore à la rentrée. À la télévision aussi, c'est dans l'air quelque part, c'est une émission de bande. Et le 20h, c'est extrêmement prestigieux, mais c'est quand même un exercice un peu solitaire, en tout cas dans la présentation. Donc je ne sais pas du tout si... je saurais faire ça et par ailleurs si j'y trouverais aussi un épanouissement aussi grand que ce que je peux faire par ailleurs.
Vous avez quitté iTélé avant que la chaîne se transforme en CNews. Que pensez-vous de ce qui est devenu iTélé ?
Rien.
C'est-à-dire ?
Bah écoutez, c'est clair.
Vous ne regardez pas CNews ?
Rarement,
c'est très bien. La saison prochaine, vous serez à la tête d'une matinale radio la semaine et à la télévision le week-end. Bruce Toussaint, quand est-ce que vous allez vous reposer ?
Le dimanche.
Vous avez d'autres projets en télé ?
Écoutez, avec France 5, on réfléchit, enfin c'est même un peu plus que réfléchi d'ailleurs, c'est bien engagé à une série, une collection, on appelle ça, de documentaires. Incarné, ça veut dire que j'apparaîtrai dedans.
Des documentaires sur quelle thématique ?
Ce qu'on appelle l'histoire immédiate, là aussi c'est un truc qui veut tout et rien dire, mais ça peut être sur des événements qui se sont déroulés au cours des dernières années, 5-10 dernières années, des événements qui peuvent être politiques, économiques, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça va être annoncé dans le courant de l'automne, mais j'ai jamais fait ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est une écriture particulière, ça sera en prime time. Sur France 5,
ce sera donc à découvrir la saison prochaine. Merci beaucoup Bruce Toussaint.
Merci.
On vous retrouve donc ce soir à 17h45 dans C'est dans l'air sur France 5. Et après C'est dans l'air, on accueille celle qui ne manque pas d'air. Bonjour Isabelle Quenin.
Limite un pneu.
Excellent. On vous retrouve à 10h pour répondre à toutes les questions santé et bien-être et conso de nos auditeurs avec au sommaire côté santé aujourd'hui tous les conseils pour se préparer à un long voyage sur la route.
Les chassés croisés de l'été, Guillaume, ceux qui rentrent déjà et qui sont pas pressés et ceux qui partent enfin et qui eux sont pressés d'arriver. Bref, des kilomètres de route, des kilomètres d'heures de conduite, des kilomètres d'énervement, le coffre plein, la galerie sur le toit et puis les enfants, j'ai mal au cœur.
Ça sent le vécu, Isabelle.
C'est quand qu'on arrive, maman, pipi. Ça sent le vécu. Et vous allez voir, Guillaume, que c'est pas que des clichés, c'est quand même un peu vrai. Alors autant se préparer.
Et côté conso vie quotidienne, 14 juillet oblige, on va vous dire où voir les plus beaux feux d'artifice en France avec notre guide touristique Olivier Allemand. Ne bougez pas, on va se retrouver dans un instant dans le grand direct des médias avec notre invité Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe 1. Le grand direct des médias.
Le grand direct des médias, Guillaume Janton.
Il est omniprésent sur la grille de France 2, il nous raconte l'histoire depuis des années et ce matin il va tout nous dire sur son avenir à France Télévisions, on l'espère sans nous raconter d'histoire. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bienvenue sur Europe 1, on vous retrouve donc ce soir sur France 2 à l'animation du concert de Paris en direct du Champ de Mars pour la 4e année consécutive. Qu'est-ce qui nous attend ce soir ?
Un spectacle étourdissant. On a Valéry Gergiev, qui est le chef d'orchestre, qui est un type un peu fou. Vous savez, il dirige avec un stylo ou avec un bistouri, selon les jours. Et puis les frères Capuçon vont se produire, les plus grandes voix, mais des jeunes voix qui incarnent le lyrique, de grands solistes qui vont... Et puis, un moment d'émotion avec la Marseillaise, qui sera précédée d'une minute de silence, parce qu'on ne peut pas oublier non plus les victimes de l'attentat de Nice il y a un an.
Évidemment. Animer un concert, c'est un exercice particulier pour vous en tant qu'animateur, Stéphane Bern.
Oui, c'est très particulier parce que vous avez deux publics. Vous avez le public qui vous regarde à la télévision, celui qui est devant France 2, et qui a envie de rêver, qui a envie de voir des belles images. Donc c'est François Göttgeber qui évidemment est aux manettes. Et puis de l'autre côté, j'ai 500 000 personnes devant moi. Et donc il faut aussi les réjouir, faut les divertir, même s'ils ne m'entendent pas toujours. Mais cette année, comme l'année dernière, je crois que le son est mis et donc ils peuvent entendre mes commentaires. Parce que sinon, il n'y a pas de programme qui est distribué. Je suis le seul qui tient un peu le registre des morceaux des grands chefs-d'œuvre d'opéra qu'on va entendre.
Vous restez sur France 2 la saison prochaine, notamment avec Code Promo, une émission d'humour hebdomadaire produite par Catherine Barma. Pourquoi ce titre et à quoi ça va ressembler, Code Promo ?
Alors, ça s'appelle Code Promo parce qu'au fond, les artistes, si vous voulez, qui viennent en promotion, n'ont pas été préparés pour ça. Ils savent écrire des livres, ils savent enregistrer des disques ou faire des films, mais ils ne savent pas se vendre. Eh bien, on va les aider avec des humoristes, on va les aider à se vendre. Et moi, j'avais très envie de revenir à l'humour. Je ne voulais pas être enfermé dans le patrimoine, l'histoire. J'adore ça. D'ailleurs, à la rentrée, vous allez me voir tout l'été. Et à la rentrée, vous allez me voir à la fois dans Secret d'Histoire, mais il y a Soir de Fête à Rio le 15 août. Il y a également, on va faire Suivez le Guide avec Laurent Deutsch, une émission de patrimoine. Puis ensuite, une émission d'immersion historique que je vais animer. Enfin, ça ne va pas arrêter. Mais j'ai besoin de temps en temps de soirées festives et d'événements, d'émissions en tout cas, d'humour comme dans 20h10 pétante que je présentais sur Canal+. Donc là, c'est avec Olivier de Benoît, qui est un humoriste que j'aime beaucoup.
Il va co-animer avec vous ?
Je ne sais pas s'il va co-animer, en tout cas, il va être à l'écriture. C'est lui qui va faire... je serai entouré d'une bande de chroniqueurs, de toute façon, et d'humoristes.
Il y aura qui dans cette bande ?
Ah, on est en plein casting, là. Vous voulez postuler ?
Avec plaisir. Je suis également humoriste à mes heures perdues. C'est un peu la nouvelle version d'On ne demande qu'à en rire, parce que c'est produit par Catherine Barma.
Bah, écoutez, je ne sais pas, j'ai jamais participé en On ne demande qu'à en rire. Je crois que ça va me ressembler davantage. Mais c'est vrai que Catherine Barma fait du Catherine Barma, mais Stéphane Bern fait du Stéphane Bern. Et vous savez, c'est une émission où il y aura deux invités qui sont en promo et qui ne savent pas faire leur promo.
Qui ne sont pas des humoristes.
Qui ne sont pas des humoristes, qui sont des gens qui viennent défendre donc un film, un livre ou que sais-je, ou une pièce de théâtre.
Donc ce sera des promos sous forme de sketch, des promos sous contrainte.
Exactement, c'est par exemple, j'ai prévu un sketch qui va s'appeler « Comment être face à Yann Moix ?» par exemple. Ça c'est très important, les invités ne sont pas préparés, vous les envoyez à « On n'est pas couché » et ils se retrouvent face à Yann Moix. Ils n'ont pas été préparés à ça, il faut les aider vraiment.
La direction de France 2 souhaitait que vous animiez les après-midi avec un concept autour de la brocante, mais vous avez refusé ce projet. Pourquoi ?
J'adore la brocante, mais le week-end, quand je la fais moi-même, mais j'ai trouvé que...
Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, selon vous ?
Je ne sais pas. Il y a une émission qui a plutôt bien marché sur M6, qui s'appelait Un trésor dans votre maison. Ouais. Non, j'ai trouvé que c'était... Le concept n'était pas antipathique, c'était surtout un contact avec les gens. Les gens venaient, vous savez, avec leurs objets. Et ensuite, il y a des experts qui les analysent. Et ensuite, la promesse, c'est de réussir à les vendre aux enchères. Je trouvais que être l'après-midi pour être là l'après-midi, ça n'avait plus de sens. J'avais envie d'un peu de temps pour faire mes propres projets. Et d'autre part, je trouvais que de l'histoire, du patrimoine et en plus de la brocante, ah ben là, je finissais Stéphane Bern, ces vieux chiffons, vieilles dentelles. Alors, j'étais vraiment catalogué le type qui a 100 ans.
Vous avez tourné donc ce pilote sur la brocante, vous avez tourné d'autres pilotes et il paraît que votre préféré était celui autour des animaux. Coproduit par la grosse équipe, est-ce que c'est vrai et pourquoi ça ne s'est pas fait ?
Ça ne s'est pas fait parce que, ça faudrait demander à la direction de France Télévisions, alors que je crois qu'ils n'y croyaient pas, ils ne croient pas aux émissions avec les animaux.
Alors que c'est très grand public ?
Il me semble, mais ça reviendra, vous savez, je crois qu'il n'y a plus d'émissions sur les animaux sur le service public, c'est un peu dommage. En tout cas, c'est bien de s'intéresser, il y a 63 millions d'animaux de compagnie en France. Et donc, ils n'ont pas le droit à une émission. Je trouve ça dommage. Moi qui suis ami des chiens et qui en ai moi-même deux, je trouvais que cette émission était très amusante, d'autant qu'il y avait Ariane Massenet, Jérémy Michalak. Enfin, c'était vraiment une joyeuse bande très sympathique.
Toute une bande autour de vous. Vous n'aurez donc pas de quotidienne à la rentrée sur France 2. Vous pensez que c'est une sanction de la part de votre direction ?
Mais non, puisque c'est moi qui l'ai
décidé. C'est vous qui avez refusé.
C'est moi qui l'ai décidé.
Donc quand vous avez dit non pour la brocante, ils vous ont proposé autre chose ?
Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire ? Tu nous mets dans l'embarras, etc. Mais on a discuté de façon... Je leur ai expliqué que je voulais du temps. C'est bien de prendre un peu de champ, vous savez. Au bout d'un moment, quand on vous voit trop, vous lassez les gens. En même temps, je ne peux pas dire qu'avec Visite Privée, qui est une émission que tout le monde reconnaît pour sa qualité, je n'ai pas vraiment lassé les gens. Il n'y avait pas non plus un monde fou qui la regardait. Mais tout ça pour vous dire que j'ai envie de travailler un peu en amont avec des gens que je choisis. Notamment, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai créé une boîte de prod il y a quelques mois. Et j'ai envie de réfléchir à des projets qui me correspondent vraiment, faire des séries documentaires. Il y a un certain nombre de gens qui m'inspirent. Je pense à Marie Drucker, par exemple, qui présente moins, même si elle fera Infrarouge, et qui s'intéresse davantage à la production. Et je trouve que c'est bien. Mais en tout cas, ça se passe très bien avec France Télévisions. J'ai lu ici.
Vous êtes en bon terme avec la direction.
Mais merveilleux, vraiment, vraiment.
Ça n'a pas été tendu pendant ces négociations ?
Mais non, pas du tout. Ils ont très bien compris. Tant Caroline Gott que Xavier Couture,
que
Delphine Ernotte, ils ont très bien compris que j'ai besoin de prendre du champ et que si je n'avais pas envie de faire de la brocante, on ne pouvait pas me forcer. Et que ça s'est d'autant mieux passé que Sophie Davant m'a téléphoné, qu'on a discuté. Je lui ai dit, écoute, j'en fais trop, c'est pas la peine. Mais vas-y, toi, c'est une émission bonne.
Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle grille de France 2 l'après-midi ? Une grille très talk, 100% féminine ou presque, avec Daphné Burki, Sophie Davant, Faustine Bollard. C'est un bon choix, selon vous ?
En tout cas, c'est plutôt bien de faire une grille féminine, oui. Elle était un peu masculine l'année dernière. Ça n'a pas très très bien marché. Alors c'est mieux que ce soit une grille féminine.
Alors là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Delphine Ernotte met beaucoup en avant les femmes sur les grilles de France Télévisions, parfois au détriment des hommes. Oui. Ça vous fait un peu peur ?
Non, pourquoi ?
Il y a beaucoup d'hommes qui quittent leur poste.
Écoutez, je vais changer de sexe, c'est peut-être le seul moyen pour garder mon boulot.
On l'a dit, vous avez récemment créé votre société de production, c'est pour avoir davantage de contrôle sur les émissions que vous animez, à un point de vue éditorial.
Exactement, et être propriétaire aussi des images. Parce que je me suis rendu compte, pour vous dire les choses, que pendant 30 ans, j'ai fait ce métier, j'ai tourné des interviews de gens incroyables, des gens qui ne sont plus là pour témoigner.
Et ces images ne vous appartiennent pas.
Non seulement elles ne m'appartiennent pas, mais elles ont disparu. Parce qu'il y a des producteurs, ici ou là, qui les ont, vous savez, ils ont appuyé sur la touche effacée d'un ordinateur et elles ont complètement disparu. Et donc, je trouve que c'est la mémoire de mon travail et je n'ai pas envie que ça disparaisse. Donc, j'ai envie d'être propriétaire de mes images.
Quel genre d'émission vous aimeriez produire, Stéphane Bern ?
J'ai envie de produire à la fois des émissions de flux, peut-être, des émissions d'humour. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes propres idées. Je veux bien me planter sur mes idées plutôt que de réussir sur les idées qui ne me plaisent pas.
Des programmes toujours avec vous à l'antenne ?
Il y aura des programmes peut-être avec moi à l'antenne, mais pas forcément. J'ai plutôt envie de développer notamment des séries documentaires sur des grandes propriétés et sur des, notamment, ça va vous étonner, sur des grandes interviews de chefs d'État qui seront diffusées et vendues à l'international.
Vous avez des projets signés déjà ?
Il y en a quelques-uns, oui, qui sont en tout cas en développement, comme on dit.
Pour France Télévisions ?
Peut-être France Télévisions, mais toutes les chaînes de France Télévisions.
Vous pourriez travailler avec d'autres chaînes que celles du groupe France Télé ?
Bah, écoutez, quand vous êtes producteur, oui, vous pouvez vendre, à condition qu'il n'y ait pas mon image. Moi, je suis très loyal et très fidèle avec, à France Télévisions et je suis estampillé France 2 particulièrement. Mais mon image, en tout cas, c'est sur France 2 et je ne m'interdis pas de vendre des programmes à d'autres chaînes, pourquoi pas TF1.
Est-ce que d'autres chaînes vous ont approché pendant le Mercato, Stéphane Bern?
Écoutez, si vous me posez la question, c'est que vous êtes au courant.
Dites-moi.
Bah, écoutez, on est approché par plein de gens en
TF1.
Permanence. Écoutez, on a des discussions, voilà.
TF1 vous a appelé?
Écoutez, les gens vous rencontrent et vous disent est-ce que tu es heureux là où tu es? Sinon, on peut te faire une place. Il se trouve que je leur ai répondu à tous, je suis très heureux sur France 2, j'y suis, j'y reste.
Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme place TF1?
Oh, mais écoutez, le 20h. écoutez, je vais pas vous le dire.
Bah pourquoi?
Mais parce que on discute. C'est pas parce qu'on discute. On ne m'a rien proposé de concret. On m'a juste demandé. On a sondé mes intentions.
Et vous avez dit que vous étiez bien.
J'ai dit que j'étais
sur
très bien sur France Télévisions. Je m'entends très bien avec la direction de France Télévisions et tout se passe bien entre nous.
Vous êtes toujours en contact avec Emmanuel Macron, Stéphane Bern?
Écoutez, je ne suis en contact avec personne. Parfois, à la présidence, on est en contact avec moi. Mais moi, vous savez, lui fait son travail, moi je fais le mien. Voilà, en même temps, on peut conserver des liens avec ses amis, non?
C'est un ami?
D'une certaine manière, oui.
Stéphane Bern est notre invité sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, le grand direct des médias, revient dans un instant.
Mais faites la terre!
Faites la terre avec la drôlatique Christine Bérou. Bonjour Christine.
Bonjour Guillaume, bonjour Anissa.
Bonjour Christine.
Bonjour à tous. Et comme par hasard, Stéphane Bern n'est pas resté pour ma chronique.
Mais il était passé.
Oui, voilà, c'est la deuxième fois qu'il est notre invité et que je le vois pas. Soi-disant que la dernière fois, il était en duplex depuis l'Ukraine. Vous savez, j'ai une théorie. Je crois qu'en vrai, Stéphane Bern n'existe pas. Voilà, que c'est un truc qu'on a créé pour me vendre du rêve, comme le Père Noël, le Prince Charmant et Philippe Poutou. Je suis catégorique. Je pense que Stéphane Bern est un personnage de fiction. Voilà, à ne pas confondre avec Éric Zemmour, qui lui est un personnage de friction. Non, mais c'est très logique quand on y réfléchit. Stéphane Bern, il est fait en image de synthèse. Sinon, comment expliquer sa structure capillaire? Eh ouais. Et puis, pourquoi un passionné du XVIIIe siècle irait commenter l'Eurovision? Cela dit, peut-être parce que la dernière fois que la France a gagné, ça remonte à Louis XVI. Bon, admettons. Mais regardez, dans l'interview, il avait l'air content. Or, Stéphane Bern, un fan des têtes couronnées, ne peut pas être content un 14 juillet, date de la fin de la monarchie.
Bah oui.
Eh ben non. Stéphane Bern, normalement, le 14 juillet, il reste chez lui, enroulé dans un plaid bleu roi, devant la VHS du mariage de Lady Di.
Oh, les
en
clichés.
Mangeant des princes. Des princes de luche, voilà. Alors évidemment, c'est un personnage créé de toutes pièces, un passionné d'histoire qui passe ses vacances en Grèce et dont le brushing est toujours impeccable. Ils se sont pas foulés. Ils ont mixé ensemble Franck Ferrand, Nikos et Jean-Louis David. Non, mais c'est sûr, il n'existe pas. Ce qui explique son nom de famille. En fait, depuis le début, on me berne.
Très bon.
Ou alors, beaucoup plus probable, il est fou de moi et cet amour lui fait peur. Du coup, il me fuit.
C'est possible.
C'est quoi, Anissa? J'ai l'habitude. Beaucoup d'hommes me fuient. T'as remarqué, comme par hasard, on n'a jamais reçu Georges Clooney.
C'est vrai.
Ouais, je dis ça, je dis rien. Alors, Stéphane, si tu m'écoutes, sache que je m'étais préparée à te recevoir ce matin. Pour te rendre hommage, j'avais prévu de commenter l'actualité monarchique. La venue en France du couple Trump, avec Donald Trump qui s'était mis en bleu en hommage à la France et sa femme Mélania qui s'était mis en rouge en hommage à Anne Roumanoff. Tu vois, je maîtrise les codes, Stéphane. Et comme toi, je connais toutes les familles royales, les Lannister, les Stark, Jon Snow. Qui d'autre comme tête couronnée? Iris Mittenard. Je connais aussi un roi chez qui je vais très souvent. Burger King. Voilà. Allez Stéphane, je vais te mettre une petite musique qui bouge comme t'aimes bien. Ah, waouh! Ça swing! Tu sais Stéphane, j'ai pas mal de points communs avec Marie-Antoinette. Moi aussi, je suis extrêmement tête en l'air. Et puis, comme toi, j'adore la musique classique. Mes musiciens préférés, c'est le duo, là, Off and Back. Voilà, j'attends tes nouvelles, mon cher Stéphane et Guillaume, à la semaine prochaine.
Merci Christine, merci à Stéphane Bern d'avoir été avec nous. Le concert de Paris, c'est ce soir à 20h55 sur France 2. Anissa, vous ne bougez pas?
Non, je ne bouge pas.
On se retrouve dans un instant pour Allo Europe 1. A tout de suite.